Bonjour chers frères et sœurs, je vous aime. Vous le savez que je vous aime ? J'aimerais rectifier deux choses. La première, toute la place n'est pas pour moi. Toute la place est pour Christ. Voilà, la première chose. Deuxième chose, c'est j'espère, et ça je le mets sur mon cœur également, j'espère qu'on ne sème pas dans l'intention de nous-mêmes moissonner. Il y a des gens qui ont semé toute leur vie et qui n'ont jamais vu de fruits. Les fruits sont arrivés après. Alors de grâce, semons, semons, semons. Et peut-être qu'on ne verra jamais les fruits de ce qu'on sème. Mais il y aura des fruits. Le Seigneur m'a mis sur le cœur depuis très longtemps. Vous allez me dire que c'est un vieux et c'est quelque chose que tout le monde connaît. De vous parler de la foi. Et c'est incroyable parce que ça suit tout ce qui a été dit ce matin. Quelle est notre foi ce matin ? On a beau dire, oui, ben, je me suis fait baptiser, je crois en Christ, je crois en Christ. Est-ce que vous savez que la foi vient de Dieu ? Je vous mets au défi de rechercher au plus profond de vous-même à quel moment vous avez construit votre foi. C'est impossible, puisque c'est Dieu qui vous l'a donné. C'est Dieu, au moment où vous avez entendu sa parole, qui a fait que votre cœur a réagi. C'est pas vous qui avez dit un jour, vous êtes réveillé à 7 heures du matin, « Oh tiens, je vais croire en Dieu. » Non. Non. Et j'ai très bien aimé, j'ai vraiment aimé la prière de Grégoire. Mais vraiment. Parce que si c'est le cas, si c'est ben vous êtes réveillé, vous dites vous êtes réveillé, ça y est, j'ai cru, j'ai cru. Ben ça veut dire que ben vous vous êtes sauvé vous-même. Ça veut dire que le jour où Dieu va mettre votre foi à l'épreuve, vous allez être surpris et surprise. Je vous rappelle que dans sa parole, le Seigneur dit quand même, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront de la parole de Dieu. Ce matin, j'ai envie de vous secouer sur la foi. Et quand je dis « secouer », vous allez vite comprendre pourquoi. On va prendre dans la parole, donc ça va être successif. Et vous allez très bien comprendre pourquoi. Ça va être ces deux récits, en fin de compte, qui se suivent. Et qui sont très importants et très parlants. Ça se trouve en Marc, chapitre 5, à partir du verset 21. Donc je ne vous le cacherai pas que c'est la résurrection de la fille de Jaïrus et la femme qui allait perdre de sang. Et vous allez voir la richesse de ces textes. C'est des textes qu'on trouve également en Matthieu, chapitre 9, verset 18-26, et Luc, chapitre 8, versets 40 à 56. Donc je vais juste aller jusqu'au verset 25. Ça sera la première partie. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où la grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Rien que l'entame que on vient de lire, on peut faire une prédication très puissante. Rien qu'avec cette entame. Rien qu'avec ce qui a été dit avant, avec ce qui va être dit maintenant, normalement, ça doit vous faire réfléchir. Vous imaginez Jaïrus, chef de la synagogue, docteur de la loi, avec un niveau social très élevé, lui qui parlait au milieu des synagogues, qui réfutait Jésus, l'action de Jésus, par la loi que chacun devait appliquer, puisqu'il était juif. Il voit passer Jésus, Il se jette à ses pieds. Il se jette à ses pieds. À quel moment dans notre vie de tous les jours on s'est jeté aux pieds de Jésus? À quel moment? Nous qui traversons des épreuves, nous qui sommes dans la maladie, à quel moment on s'est jeté aux pieds de Jésus? À quel moment notre moi s'est abaissé, s'est humilié à se jeter aux pieds de Jésus? Je vous rappelle que Jaïrus avait un niveau social très élevé. Jésus n'était pas tout seul avec ses disciples. On imagine qu'il devait, puisqu'on dit, il y avait une foule, une grande foule le pressait et le suivait. Il n'y avait pas 10 personnes. On peut s'imaginer qu'il y avait 250, 300 personnes. Ils ont vu Jaïrus, chef de la synagogue, se jeter aux pieds de Jésus. Pourquoi Jaïrus s'est jeté aux pieds de Jésus, d'après vous? Pourquoi? Parce qu'il savait dans ses profondeurs que ce n'est pas la loi, que ce n'est pas tout ce qu'il disait, que ce n'est pas tout ce qu'il était qui aurait pu sauver sa fille. C'était Jésus seul. Est-ce que ce matin, on sait que seul Jésus peut nous sauver? Est-ce qu'on le sait? C'est bien beau de le dire, mais est-ce qu'on le sait là? On entend dans nos églises des chrétiens qui se plaignent au quotidien. Est-ce qu'ils se sont mis devant le Seigneur? Et vous allez voir, avec la femme en perte de sang, vous allez voir ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'on s'est mis devant le Seigneur? Est-ce qu'on a recherché de tout son cœur, de toute son âme, en sachant que seul Jésus peut agir? Est-ce qu'on l'a fait? Ou est-ce qu'on est toujours là, quotidiennement, à se plaindre? En disant, c'est la fatalité, c'est mon passé, ma vie est comme ça, ma vie a toujours été comme ça. Vous imaginez Jaïrus, il avait agi comme ça? Sa fille serait restée morte. Elle serait restée morte. Donc on en arrive au point où Jésus avançait. Il avait décidé de suivre Jaïrus. Et on va voir pourquoi. Parce qu'il a vu l'attitude de Jaïrus. Parce qu'il connaissait son cœur. Parce qu'il savait la sincérité de Jaïrus quand il a dit « Ma petite fille est à l'extrémité ». Est-ce que dans nos prières, on a déjà dit « Seigneur, je suis à l'extrémité ». J'en peux plus. Est-ce qu'on l'a déjà fait? Le jour où on l'aura fait, le jour où on va le faire réellement, mes frères et sœurs, je vous le dis, vos prières et nos prières vont changer. Ça ne sera plus du « Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, fais ceci ». Le jour où vous entendez quelqu'un qui va commencer à prier pour quelqu'un d'autre, vous dites « Celui-là, il est sauvé ». Celui-là, il est sauvé. Il a Christ dans son cœur. Mais si vous êtes sans arrêt en train, et si on est sans arrêt, fais ceci, Seigneur, pour moi, fais ceci, c'est qu'on a des doutes. On a des doutes sur ce qu'a fait Christ. On n'est pas sûr de son salut. On n'est pas sûr de la puissance de Christ dans nos cœurs. Mais si on change nos prières, on dit, Seigneur, je sais que tu es le seul qui soit capable d'agir. Là, Jaïrus lui parle de sa petite fille qui a une maladie très grave. Sa petite fille va mourir. On va voir la suite parce qu'elle est morte. Le Seigneur nous répond quand on lui dit « Seigneur, j'en peux plus ». Le Seigneur nous répond « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». En psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. C'est pas tous les jours. Le salut ne vient pas en 10 fois. Le salut vient en 1 fois. L'image qu'on va voir maintenant de la dame qui avait des pertes de sang, ça représente le salut. Mais elle a dû faire quelque chose. quelque chose de magique pour le monde, mais réel pour Jésus. Il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plus tôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en elle-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Moi, ça me fait rire, cette question. Ça me fait rire. Vous imaginez bien que Jésus n'a pas posé cette question au hasard. Il avait quelque chose dans la tête. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, mais qui m'a touché ? Même les disciples ne comprennent pas cette question. Même les disciples. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Celle qui avait fait cela, vous imaginez ? Jésus savait déjà que c'était une femme qui l'avait touché. Donc il y a quand même des choses à réfléchir. Les femmes effrayées et tremblantes, sachant ce qui s'était passé en elles, vinrent se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. La réponse de Jésus est magnifique. Et là, je vais vous l'exposer tout à l'heure. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. La parole ne nous dit absolument pas qui et cette dame, quel est son niveau social? Elle ne nous dit rien de cette dame. Elle nous dit une chose qui est très importante. C'est qu'elle était malade. Et cette maladie faisait qu'elle n'avait même plus accès à Dieu. J'espère que vous le savez. Si vous lisez Lévitique 15, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Tous les gens qui avaient ce genre de maladie, qui avait des pertes de sang, pour les hommes, un gonorrhée. J'ai même pas pensé à regarder ce que c'était. Vous regardez bien, dans Lévitique, c'était expliqué comme ça. Il fallait se laver, il fallait laver ses vêtements, il fallait se purifier. Cette dame qui était en perte de sang constante ne pouvait plus venir au temple. Ne pouvait plus venir au temple. Et là, ça nous fait réfléchir sur notre façon d'être. Est-ce qu'on va refuser à quelqu'un qui est sale, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est ce que vous voulez, d'entrer dans notre église et d'avoir accès à la parole de Christ parce qu'il est malade, parce qu'il est sale, parce qu'il est ce que vous voulez? C'est ce que faisait la loi. Vous voyez que la loi quand même limitait. Cette dame n'avait plus accès. Elle n'avait qu'une seule conviction. La seule conviction qu'elle devait avoir, c'est que seul Jésus pouvait la guérir. Seul Jésus pouvait la guérir. Elle avait la foi, une foi profonde, de savoir que même tout ce qu'elle avait fait, Jésus l'aurait guéri. Elle a utilisé toutes les choses du monde. Elle a dépensé toute sa fortune. Et pourtant, la mort était au pied de sa porte. Elle avait une chose à faire. Elle avait une chose à faire. Il fallait qu'elle franchisse ce mur qu'il y avait devant elle. Ces gens qui étaient légalistes, puisqu'ils écoutaient Jésus-Christ, et ils voulaient le confondre. Il y avait des docteurs de la loi, il y avait tout, elle devait franchir ce mur. Et ça m'a fait penser souvent aux hommes qui utilisent des doctrines. Ils ne voient que les doctrines, ils ne voient que la loi, ils ne voient que ce qu'ils pensent prêcher bon, mais ils oublient une chose. qui est essentiel et que nous-mêmes, on ne doit pas oublier, c'est la simplicité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est d'une simplicité phénoménale. Il est simple. Il a envie de guérir, il va guérir. Il n'y a pas besoin de lui faire des développements magnifiques. Il guérit dans toute sa simplicité. Et nous, on rajoute des choses autour. On ajoute des choses qui n'ont rien à voir avec la simplicité de Christ. Christ, il n'a pas demandé un écrit à cette dame. Il n'a pas demandé un exposé détaillé de ce qu'elle a fait durant ses 12 ans. Il s'en fichait éperdument. Je suis même persuadé qu'il savait déjà que quelqu'un allait le toucher. Je suis persuadé. Mais elle, elle a une foi. Elle a juste, vous allez dire, juste. Elle n'a rien d'autre. Juste une foi sincère. Juste ça. Et c'est ce qui lui permet cette foi, malgré, je pense, sa timidité, malgré tout ce qu'elle était, de franchir ce mur de personnes. Elle pense un contact. Elle est persuadée dans son cœur qu'un contact suffit. Elle ne dit même pas « je vais parler avec lui, je vais demander qu'il me touche, je vais demander qu'il m'impose les mains ». Non, dans sa tête, elle sait qu'un seul contact suffit. Est-ce que vous avez déjà tenté, est-ce que vous avez déjà fait cette expérience dans votre vie de toucher spirituellement Christ ? J'espère que vous avez la conviction dans votre cœur que spirituellement vous pouvez toucher Christ. Est-ce que vous le savez ? C'est pas de la magie, c'est pas un hurluberlu qui vous parle. Est-ce que vous avez spirituellement touché Christ ? C'est pas en venant seulement le dimanche, en étant bien habillé avec un costume cravate, en représentant ou Saint Jean, l'attitude du chrétien, vous allez toucher Christ. C'est faire comme Jaïrus, il a fait. C'est faire tomber le moi. Arlette en a parlé tout à l'heure. Faire tomber ce moi qui vous empêche de vous mettre à genoux, de lever les bras au ciel et de dire « Seigneur, je n'en puis plus de cette vie ». Cette vie où je singe, cette vie où j'ai l'impression, où je crois être sauvé. Le jour où vous l'êtes réellement, dans votre cœur, il n'y a plus aucun doute. Est-ce que vous pensez réellement que cette dame, quand elle a été guérie, elle est revenue voir Jésus, elle dit « Tu penses réellement que tu m'as guéri ?» Elle le savait dans ses profondeurs. Elle le savait. Est-ce que nous, dans notre cœur, on le sait qu'on est sauvé ? Est-ce qu'on le sait ? Ou est-ce qu'on est rempli de doutes parce que notre foi n'est pas assez puissante ? Il suffit simplement de se mettre à genoux devant Christ. Simplement. Et vous allez voir que vous allez toucher Christ spirituellement. Ça va vous faire drôle. Ça, c'est clair. Ça va vous faire drôle. Parce que si vous n'êtes pas sauvé, vous allez vite le savoir. Vous allez vous sentir sale. Vous allez vous sentir pauvre. Tout ce que vous avez monté, vous savez cette image, cette belle image que vous donnez aux autres. C'est pour ça que la prière de Grégoire était importante. Cette belle image que vous donnez aux autres, vous allez voir sur votre cœur ce que ça va faire. Vous allez avoir cette impression de saleté. Parce que Christ va vous montrer sa gloire. Il va vous la montrer. Et il ne va pas vous la montrer d'une manière spectaculaire, hein. Parce que beaucoup pensent que vous allez pleurer, qu'on pleure, qu'on ceci, cela. Moi, ma conversion, je n'ai pas pleuré. Mais le Seigneur m'a montré sale, mais d'une saleté que vous ne pouvez même pas imaginer. Elle n'avait que ça. Elle savait dans son cœur que Christ pouvait la guérir. La puissance du Seigneur s'exerce justement par rapport à notre foi, par rapport à ce qu'on sait de lui, par rapport à ce qu'on pense de lui. Si je dis Christ va me sauver, va me guérir, Christ le fera. Si je commence à mes prières en disant sauve-moi, et que dans ma tête, je ne suis pas sûr, Christ ne le fera pas. Christ a vu le cœur de cette dame. Il a vu sa foi, qui disait « je ne vais même pas parler avec lui, simplement le toucher, simplement le toucher ». Et pourtant, elle avait vu plein de médecins. Elle avait utilisé tous les moyens du monde, mais elle se disait dans sa tête « simplement le toucher ». Vous imaginez, vous, simplement toucher Christ spirituellement. Ça va bouleverser votre vie, comme ça a bouleversé la vie de cette dame. Et vous imaginez qu'il y a des gens, est-ce que vous croyez que les gens n'essayaient pas de toucher Christ quand il avançait, quand il était... Il y a des gens, je ne sais pas si c'était la coutume là-bas, mais certains voulaient peut-être lui serrer la main, l'embrasser, certains l'ont fait. Ils n'ont pas été sauvés pour autant. Ils n'ont pas été sauvés pour autant. Parce que Christ voit nos intentions. Christ voit notre cœur. Christ voit nos intérêts. Christ voit notre sincérité. Est-ce que quand je prie, est-ce que je me mets devant le Seigneur, je ne pense pas au poulet qui est en train de cuire, au gamin qu'il faut aller chercher à l'école, au prochain cours de musique? Ou est-ce que je me mets réellement à genoux devant le Seigneur en disant « Je ne veux être qu'avec toi. » Les gens pensent que avoir un contact avec l'Évangile, avoir des relations avec des chrétiens, même avec des serviteurs de Dieu, fidèles serviteurs de Dieu. Je voudrais pas blesser des gens, je voudrais pas ternir une certaine image, est-ce que vous pensez réellement que Norman peut vous sauver? Si je vous dis au milieu de la prédication et qu'il écoute, qu'il connaît le français, que je dis aujourd'hui Norman va vous sauver, il viendra la prochaine fois et me dira tu es un menteur. La seule chose que peut faire Norman et qu'il fait toujours, déjà c'est parler de la simplicité de la parole de Dieu. Mais c'est surtout vous amener à Christ. C'est notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas sauver les gens. Notre rôle, c'est les amener à Christ. Donc ce ne sont pas ces gens, ce ne sont pas ces attitudes. Vous imaginez qu'il y a des gens dans des églises qui sont morts et qui resteront morts parce qu'ils pensent qu'au milieu des chrétiens, à écouter la parole, à entendre la parole, ils sont sauvés. Il y a des églises protestantes, je suis désolé de vous le dire, où il y a les trois quarts sont morts. Les trois quarts. Et je le dis, ça va vous surprendre, je vous le dis. La meilleure façon de voir, c'est de venir aux réunions de prière. Venez aux réunions de prière. Ne comptez pas les chaises pleines. Si, comptez les chaises pleines, ça va plus vite que compter les chaises vides. C'est là où on voit une église vivante. C'est là où on voit une église vivante. C'est la continuité de ce qu'on est tous les jours. Attention, quand je vous dis ça, moi j'ai fait partie de ceux qui étaient dans les chaises vides. Le Seigneur m'a parlé pour ça. Je faisais partie de ces gens-là. Mais comment on peut dire à quelqu'un qu'on a connu Christ si on ne veut pas parler avec lui? Et la prière, c'est une relation avec Christ. Et vous allez voir que Christ va le dire à cette dame. Il va le dire. Donc la puissance de guérison, elle est sortie de Christ. D'entrée. Il n'a pas fallu tout un processus. Tout de suite, elle l'a touchée, elle était guérie. C'est incroyable. Ça a été la même chose avec nous. On a reçu la parole de Christ, tout de suite, on a été guéri. On a connu le salut. Mais le Seigneur exigeait une seule chose. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre les questions de Jésus. Qui a touché mes vêtements? Même ses disciples disent, mais comment tu veux qu'on sache qui a touché ton vêtement? Qui m'a touché? Il répète. Qui m'a touché? Enfin, c'est ses disciples qui disent, et toi tu nous poses la question, qui m'a touché? C'est parce que Christ veut que les choses soient scellées devant les hommes. C'est facile, moi, d'arriver à l'église et de dire, ben, je crois en Christ. Je crois en Christ. J'ai été sauvé, baptisé, je crois en Christ. Si mon attitude tous les jours devant les hommes, elle ne montre pas que je suis en Christ, j'ai encore ces excès de colère, j'ai encore ce moi qui est au-dessus parce que je dis que j'ai raison dans toutes les situations, parce que ben, c'est moi le chef au travail, parce que ceci, parce que cela. Est-ce que je montre réellement à ceux qui m'entourent que j'ai une vie différente d'eux? Non pas que je me force à être, mais parce que les choses que je suis en train de dire sont naturelles. Jésus a transformé ma vie de telle manière que ses comportements ne sont plus singés, mais sont naturels dans ma vie. La prière, et ça je le dis pour moi également, la prière doit être naturelle. Annoncer la parole de Dieu doit être naturel. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais le décalage qu'il y a entre nos prières et parfois ce qu'on annonce. On s'assoit, Seigneur, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi. Ah tiens, tu sais que je suis à Christ. Moi. Vous imaginez si les gens à qui vous annoncez la parole de Dieu écoutaient vos prières? Ça choquerait quand même, je pense. Ça choquerait. Christ veut simplement que cette femme scelle son geste devant les hommes. Qu'elle dise, qu'elle témoigne. Oui, c'est moi qui t'ai touché. Et un geste furtif ne suffit pas. Le fait de venir à l'église, ça ne suffit pas. Le fait de venir aux études bibliques ne suffit pas. Le fait de venir aux réunions de prière ne suffit pas. Il faut que mon action continue au quotidien, devant les hommes. Et lui, le Seigneur, c'est ce qu'il voulait. La foi du cœur, la foi qu'avait cette dame et la confession de la bouche sont liées. Christ voulait qu'elle dise pourquoi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Confesser de sa bouche. Il y a des gens qui vont le dire une fois, terminé. C'est le dire au quotidien, c'est exprimer ce que l'on ressent. C'est pour ça que je vous dis, si le Seigneur a vraiment touché votre cœur, votre vie va être naturelle avec lui. Ça ne sera pas singé. On n'attendra même plus de voir. Oh, j'ai évangélisé 180 personnes. Norman annonce la parole de Dieu. Il s'en va. Il ne sait absolument pas s'il y a des gens qui se sont donnés à Christ. Il ne le sait pas. Son but, c'est d'annoncer l'amour de Christ pour chacun d'entre nous. C'est son but et son seul but. S'il en était autrement, ça serait de l'orgueil. Et pour nous, c'est la même chose. Quand on annonce la parole de Dieu et qu'on s'attend à avoir des fruits, c'est de l'orgueil. C'est-à-dire, on est en train de dire au Seigneur, montre-moi que je te sers à quelque chose. Non, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est Seigneur, tu m'as sauvé, je vais annoncer ce que tu as fait aux autres. C'est ce qu'il voulait pour cette dame, qu'elle annonce pourquoi elle avait fait ça. Cette dame est l'image de l'homme dont la vie s'en va. Il est mort. Il voit que sa vie s'en va. Il voit les années ont passé. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai utilisé tous les moyens du monde. Elle allait utiliser tous les médecins. Et rien n'a fait. Elle n'était pas sauvée. Elle allait mourir dans cet état. Mais seul un contact avec Jésus-Christ a suffi. Un seul contact. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, la réponse de Christ est importante. Comment Christ va répondre? Il lui dit, ma fille, là il établit la relation, ma fille, ta foi t'a guérie ou sauvée, c'est-à-dire que les besoins qu'elle avait, terminons, on n'en parle plus. J'ai fait en sorte que, j'ai vu ta foi, j'ai vu ta sincérité d'âme, je t'ai sauvée. Va en paix. Vous voyez quand je vous disais vos prières, va en paix. Lorsque vos prières changeront, lorsque nos prières changeront, c'est le va en paix. Ne te soucie plus de l'état de ton âme. Je m'en suis chargé. Une fois pour toutes. Si tu déclares aux autres que tu es sauvé, tu es sauvé. Tu n'as plus de questions à te poser sur ce qui s'est passé avant. Parce que ce qui s'est passé avant, je m'en suis chargé. Va en paix et en sécurité. C'est important d'intégrer cette chose. C'est très important d'intégrer cette chose. Va en paix. Sois guéri de ton âme, de ton mal. La guérison que je t'ai faite, tu vas la retrouver, elle va revenir, elle va ressortir dans 2 mois. Est-ce que vous croyez que Jésus lui a dit ça? Je t'ai sauvé définitivement. Regardez dans le dictionnaire en rentrant ce que ça veut dire ce mot, si vous n'êtes pas convaincu. Et la foi tourne autour de ça. Si je suis persuadé dans mon cœur que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur, je suis guéri. Il n'y a rien d'autre. Ça ne sert à rien d'essayer autre chose, ni de croire à autre chose, ni de prier autre chose. Je suis guéri. Est-ce que vous croyez que cette dame s'est posée cette question-là? Elle se savait guérie parce qu'elle l'a senti. Est-ce que vous avez senti dans votre cœur que vous êtes guéri? Si vous ne l'êtes pas, mettez-vous tout de suite devant le Seigneur. Tout de suite. Sinon, je vous dis tout de suite, le verset qu'a montré Alex tout à l'heure, vous y êtes en plein dedans. Vous serez dans la géhenne. Et je vous le dis en vous regardant dans les yeux, vous serez dans la géhenne. Il n'y a pas d'autre chose. Si je dis autre chose, je suis un menteur. Si vous savez maintenant, à l'instant où je vous parle, que dans votre cœur, l'œuvre de Christ n'a pas été faite, mettez-vous à genoux tout de suite. Sinon, le Seigneur va vous montrer à la fin, quand vous allez être devant lui, tu n'as été qu'un singe. Tu n'as été qu'un singe. Et souvent quand les gens disent « Oui, mais quand je serai devant lui, je lui dirai. » Vous allez faire partie de ces gens qui ne pourront même pas se tenir droit et debout devant Christ. Ça sera impossible. Seuls ceux qui sont sauvés pourront se tenir debout dans la gloire de Christ. Parce que leur nom est inscrit sur le livre de la vie. Alors ce matin, est-ce que votre nom est inscrit sur le livre de la vie? Est-ce qu'il est inscrit? Posez-vous cette question. Ou alors est-ce que je viens tous les jours, tous les dimanches, parce que c'est dimanche? Ou est-ce que j'ai saisi la puissance de Christ à pleine main? Et tant pis si ça fait des dégâts dans mon moi. Parce que le jour où on va passer devant Christ, on aura des comptes à rendre. Et il ne sera pas question de dire, mais j'ai assisté à 1260 cultes, 96 000 réunions de prière, j'ai évangélisé les uns et les autres. Le Seigneur va dire une seule chose. Regarde ce que tu as fait de ce que je t'ai donné. La parabole du talent. Regarde ce que tu as fait. Tu l'as pris, tu l'as enseveli au milieu de toutes tes choses, de toute ta saleté, de toute ta vie. Est-ce que vous croyez que cette femme, elle pensait à ça? Elle pensait qu'à une chose, parce qu'elle avait foi en Christ. Elle savait que lui seul pouvait le guérir. Elle a franchi des obstacles. Elle a franchi les hommes de la loi avec leurs grands principes. Elle est allée. Elle a simplement touché la robe de Jésus. Simplement, il n'y a pas d'autre mot, simplement. Et elle a fait demi-tour. Et au moment où elle a touché, vous voyez, elle a dû faire ça, au moment où elle a touché, elle a été guérie. Ce matin, le Seigneur vous demande simplement de le toucher. Simplement, il ne vous demande pas autre chose. Il vous demande simplement de le toucher. La confession qu'on fait, elle doit être ouverte. Elle doit être sans calcul. Si l'œuvre de Christ a été faite dans notre cœur, elle doit être sans calcul. Cette femme, quand Jésus l'a appelée, elle est venue devant lui. Elle était tremblante, elle était effrayée. Elle s'est jetée à ses pieds, encore une fois, elle s'est jetée à ses pieds. Elle lui a dit toute la vérité. Elle lui a dit, Seigneur, je suis persuadé qu'elle lui a dit, mais Seigneur, je savais que toi seul pouvais me guérir. Est-ce qu'on a dit ça une fois dans nos prières? Je sais que toi seul peux me guérir. Le Seigneur ne demande pas des tralala. Hein. Il ne va pas demander à ce que vous veniez au micro. Non, ça peut être dans une... ce que vous voulez, dans un garage, dans un grenier, dans une cave, dans ce que vous voulez. Mais criez à Jésus, je sais que tu es le seul qui puisse me sauver. La parole est sur votre cœur, mes frères et sœurs. Le Seigneur vous l'a donnée un jour. Et c'est ce que je dis souvent, on en a parlé mardi, il faut laisser l'Esprit de Dieu agir dans votre vie. Et quand on dit « laissez l'Esprit de Dieu agir dans votre vie », c'est que il faut, le « moi » doit s'abaisser. Vous imaginez cette femme, ce qu'elle a dû faire. Vous imaginez, je ferai Jaïrus une autre fois, vous imaginez Jaïrus ce qu'il a dû faire. Lui qui était chef de la synagogue, quelqu'un de très haut placé, quelqu'un de très en vue. Il s'est mis aux pieds de Jésus, il s'est humilié en disant, je suis persuadé que ces paroles c'était simplement, tu es le seul à pouvoir guérir ma fille. Et Jésus va lui montrer autre chose, c'est qu'il peut aller beaucoup plus loin que guérir. Il peut ressusciter des morts. C'est-à-dire que quel que soit votre état, quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit ce que vous êtes aujourd'hui, il peut vous en sortir. La femme qui avait cette perte de sang, elle avait tout essayé, elle avait tout vu, des médecins éminents. Elle avait dépensé une fortune. Elle avait entendu parler de Christ et dans son cœur, elle savait que c'était le seul qui soit capable de le guérir. Et encore une fois, on a cette image de traverser ce mur de personnes, ce mur de docteurs de la loi, qui étaient toujours aux aguets pour savoir si Jésus allait se tromper dans ce qu'il disait. Elle a touché simplement le vêtement et elle a été guérie. Mais Jésus ne voulait pas d'une guérison furtive, il voulait vraiment que ce soit scellé devant les hommes. C'est-à-dire que ce qui s'était passé en elle, elle le dise, mais elle le vive. Je sais que ce geste m'a guéri. Je sais que tout ce qui est arrivé avant n'existe plus. Je suis sauvé. Voilà nos prières d'aujourd'hui. Je sais, Seigneur, que tu m'as guéri. Je sais qu'aujourd'hui, je suis l'élu. Je sais que je suis saint. Et je sais que j'ai une mission, annoncer ce que tu as fait dans mon cœur. Je suis persuadé que cette dame est rentrée. Elle a annoncé à tout le monde qu'elle était guérie. Il y a eu la réconciliation, parce qu'à nouveau, elle pouvait aller au temple. Et Dieu l'acceptait dans le temple. Si on n'a pas cette conviction d'être sauvé, Dieu ne nous acceptera pas dans son royaume. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? La parole doit, je vais terminer là-dessus, la réception de la parole, elle doit être reçue sur notre cœur. Que sur notre cœur, pas dans notre intelligence. D'accord? C'est-à-dire que l'Esprit va nous amener à comprendre la parole de Dieu. Rappelez-vous au début, quand vous avez commencé à lire la parole de Dieu, c'était difficile, vous ne compreniez rien. L'Esprit, petit à petit, a ouvert votre esprit, votre intelligence, pour comprendre toutes les petites choses qui ne sont pas visibles au départ. Et puis d'un seul coup, ça devient clair. C'est ce que le Seigneur veut. Mais il veut ça qu'à une seule condition, c'est que vous vous ayez repenti devant lui. Et ça, c'est la première des prières. C'est de dire, Seigneur, je connais ma vie. Je sais de quoi elle est faite. Je sais ce qui est sale en moi. Je sais que tu es le seul capable à guérir, de guérir. Fais-le pour ta gloire et non pour la mienne. Seigneur, je te rends grâce pour la puissance de ta parole. Seigneur, je te demande que pour chacun d'entre nous, qu'elle ne soit pas plus reçue comme une parole sur notre intelligence. Mais cette parole, Seigneur, qu'elle puisse venir sur notre cœur et transformer nos vies. Seigneur, on voit cette femme qui avait la conviction que tu allais la guérir. Et elle a agi en sorte que tu l'as guérie, Seigneur. Seigneur, je te loue parce que ce matin, tu es encore capable de guérir les plus grandes maladies. Mais Seigneur, ton intention, c'est de guérir la plus grande des maladies, le péché. Mais Seigneur, il faut accepter, et tu le sais, que nous nous humilions devant toi. Que nous puissions déverser notre cœur rempli de saleté sur toi, pour que ton sang coule sur nous pour nous laver. Seigneur, que nous puissions chacun être ensevelis en toi, afin que ce soit toi qui sois sur notre cœur et toi qui parles à notre place. Alors nous deviendrons des semeurs puissants, des ouvriers pour toi, qui seraient fondés par ton esprit, fondus par ton esprit, manipulés par Dieu le Père. Et Seigneur, tu nous reconnais aujourd'hui comme tes enfants, et c'est ton vœu le plus cher, que nous ayons une foi à toute épreuve. par le nom de Jésus. Amen.